Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en ce début de semaine que nous allons donc passer ensemble pour parler, comme chaque jour en fin d'après-midi, de football. Et nous commencerons par une CAN. La CAN, tous les 4 ans, c'est la proposition faite par Gianni Infantino aux dirigeants de la Confédération africaine. Cette idée suggérée par la FIFA correspond-elle au projet et aux besoins du football africain? La CAF a-t-elle le choix pour se décider? Eh bien, nous en parlerons dans Radio Foot aujourd'hui. Les Spurs vainqueurs des Citizens, le face-à-face entre José Mourinho et Pep Guardiola a tourné à l'avantage de Tottenham. Que se passe-t-il à Manchester City, double champion sortant d'Angleterre, deuxième du classement, mais distancé comme jamais par les Reds de Liverpool? Le PSG facile vainqueur de Montpellier, mais une victoire et un but ne suffisent pas au bonheur de Kylian Mbappé. Il n'aime pas sortir du terrain avant la fin et le montre publiquement. En fait-il trop, notre attaquant surdoué? Lui, il n'en faisait pas trop, son humilité était même sa vertu. Hommage à Marius Trésor, parti à la retraite après un demi-siècle passé au service du football. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à vous, Annie, quel plaisir. En plus, on va parler football africain, ça me fait bien plaisir.
Oui, effectivement. Enfin, football surtout dirigeant du football africain.
Absolument.
Ou autre d'ailleurs. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Annie.
Vous revenez nous voir en passant là, mais il y a de l'actualité en Angleterre, passant, vous savez. Bah oui.
C'est un grand voyageur lui.
Non, vrai. Mais ça faisait quelque temps que les auditeurs ne l'écoutaient pas.
Ah.
Bonjour Gilles Pérez.
Bonjour.
Verdez, pardon.
Ça lui va bien aussi, Pérez.
Très bien. Non, mais c'est un autre personnage dans notre panel de spécialistes du football.
Un personnage que vous aimez bien.
Oui, oui, qui est à Marseille d'ailleurs. Pardon, Gilles, excusez-moi.
Je vous en prie.
Bon, avec vous, on parlera aussi de tous ces footballs au menu des débats du jour. Radio Foot, c'est parti.
On joue la Coupe d'Afrique des Nations tous les deux ans depuis quand? Je ne sais pas, vous le saurez mieux que moi. Des décennies? Est-ce qu'on a vu un développement des infrastructures et des revenus du football africain? La Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui génère 20 fois moins que le championnat d'Europe. Et au niveau des infrastructures, honnêtement, j'ai voyagé dans 41 pays. Ce que j'ai vu n'était pas vraiment une explosion de stades modernes. Est-ce qu'on est vraiment convaincu que d'avoir une Coupe d'Afrique des Nations tous les deux ans, surtout avec 24 équipes, c'est bien au niveau commercial. En ce qui concerne les équipes nationales, c'était certainement pas en augmentant le nombre des championnats, mais en faisant en sorte que quand on organise quelque chose, ça doit être le top. Donc, c'est votre décision. Mais ce que je vous demande de discuter et de réfléchir, c'est de passer la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans.
La bombe est lâchée aux Africains d'en mesurer les effets et d'y adhérer ou pas. À Rabat, ou à Salé plus précisément, lors du séminaire qui a précédé le comité exécutif de la CAF au Maroc, Gianni Infantino a secoué son auditoire avec ses propos clairs et tranchants, peut-être le fruit du travail d'audit mené par la secrétaire générale de la FIFA qui intervenait ces derniers temps, ces 6 derniers mois, au sein de la Confédération africaine. Gianni Infantino a aussi formulé d'autres propositions, nous allons y revenir, mais il est surtout intervenu sur un sujet tabou jusqu'à présent, et depuis 1957, lui, il ne le sait pas exactement, mais nous le savons, année où la première CAN s'était disputée, et c'était au Soudan. Gianni Infantino va-t-il forcer la main des présidents des fédérations africaines? Antoine Grenier était notre envoyé spécial du côté du Maroc, il est en ligne avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous, Antoine. J'imagine que quand vous avez entendu ça, on sentait que ce sujet montait autour de la Confédération africaine, au sujet de la CAN, notamment quand elle vient d'être déplacée récemment et remise en hiver. Mais est-ce que ça a été une surprise pour toutes les personnes ?
Bah, vous disiez, Annie, la bombe est lâchée. J'aurais plutôt dit que ça a été le coup de massue asséné par Gianni Infantino devant les présidents des fédérations africaines de football. Une des réactions qui est la plus parlante, à mon sens, c'est que lorsqu'il a évoqué ses autres projets, comme son milliard pour les stades en Afrique ou sa Super League à 20 clubs, là, il a reçu des applaudissements. Et quand il a proposé au président des fédérations africaines de réfléchir à cette CAN tous les 4 ans, là, il a simplement reçu un silence gêné, et en même temps coup de massue, et en même temps c'était un peu une épée de Damoclès, cette CAN tous les 4 ans, et le fait que la FIFA le propose, parce que la FIFA avait décidé d'une nouvelle formule de Coupe du Monde des clubs tous les 4 ans, et ça empiétait sur les dates de la CAN. Ce qui est sûr, c'est que lors de ce week-end à Rabat, au Maroc, bah, la FIFA, elle s'est sentie forte, elle se sent forte face à la CAF. C'était vraiment une évidence. Le président de la FIFA qui se présente comme ça et qui propose un tel changement pour le football africain, ça montre le poids et les certitudes que peut avoir la FIFA actuellement. On peut regretter en revanche que, bah, en gros, le discours de la FIFA, c'est un peu un discours de petits commerçants. Voilà, ce qui est pas commercialement viable, bah, ça doit disparaître, ou alors ça doit être profondément repensé. Il y a certainement d'autres aspects comme le football qui peuvent être intéressants à prendre en compte du côté de la FIFA.
Hervé Penaud, est-ce que vous avez été surpris quand vous avez vu les propos de Gianni Infantino?
Ah, pas du tout. Non, mais pour moi, c'est la fin. Vous êtes en train de
construire
un mur.
On l'évoquait dans Radio Foot International ces derniers temps.
On en a déjà parlé. Parce que, à partir du moment où on passait déjà à 24 équipes. Moi, il faut pas oublier dans ce qu'a dit Infantino. Il dit, c'est surtout une compétition à 24. Et surtout à 24. Évidemment, à partir du moment où on passe à 24.
C'est lui qui a poussé que ce soit 24. Parce que, à votre avis, lui, c'est pour ça qu'il pousse à 48 pour la Coupe du Monde.
Il a poussé. Plus, il a pas fallu pousser beaucoup non plus certains dirigeants du football africain. Parce qu'il faut quand même les mettre devant leurs responsabilités. Parce que ça va bien accuser Infantino, mais enfin il y a quand même des gens qui dirigent la CAF, si je ne m'abuse, donc c'est quand même à eux de prendre des décisions. Maintenant. Donc à un moment aussi, ils ont le droit soit de s'opposer, soit de trouver que certaines choses sont totalement ridicules. Rappelons-nous cette Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Mm-hmm. À partir du moment où on passait à 24 en juin,
mais ça plus d'infrastructures,
voilà,
plus
soi-disant,
de joueurs,
qui nous expliquait qu'il fallait absolument,
et plus de temps.
Pas d'autres. Et puis c'était génial, fallait le faire en juin, c'était génial pour les joueurs. Puis 2 ans plus tard, on nous explique que finalement on peut plus le faire en juin, on le fera en janvier, donc c'est totalement ridicule. Mais ce qui est pas ridicule, c'est que vous avez 24 équipes. Et 24 équipes tous les 2 ans, moi je crois que c'est très très compliqué. Alors c'est pas que je suis contre les 24, hein, pas du tout, mais je pense que c'est effectivement très compliqué. Et il faut repenser le football africain. Le problème, c'est que la CAN, c'est ce qui rapporte de l'argent à la CAF, tout simplement, tous les 2 ans. Donc il va falloir trouver un moyen de substitution, mais moi je trouve simplement, c'est qu'Infantino, il fait un peu ce qu'il veut, mais son discours, vous ne pensez pas qu'il en avait parlé, il en avait parlé avec Hamad avant. Bah, évidemment, il en a parlé avec tous les dirigeants.
Hamad n'a rien commenté d'ailleurs.
Évidemment, parce qu'ils étaient tous au courant, vous imaginez pas qu'il monte à la tribune et qu'il invente un discours comme ça, et puis tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout le monde le savait. Simplement, c'est un vrai coup dur pour le football africain, pour les suiveurs du football africain. Et puis il faut savoir que le football africain, c'est un peu plus que du football aussi. Sociologiquement, ça a un impact, un poids énorme, et que tous les 2 ans, ça permettait aussi à beaucoup de pays s'intéresser à quelque chose qui donnait un peu un souffle,
un peu plus
que simplement du football et du sourire. Donc faut prendre en compte un petit peu tout aussi.
Gilles, peut-être que le football africain effectivement a besoin d'être réorganisé ou replanifié, mais le problème, c'est peut-être que là, ça vient pas des Africains en fait.
C'est néocolonialiste, purement et simplement. C'est l'homme blanc qui arrive fort de tous ses pouvoirs qu'il prend au dos des Africains. Ça nous rappelle de périodes sombres de l'histoire. Donc j'ai détesté cette intervention de Monsieur Infantino avec son ton arrogant, là, méprisant. Je ne sais pas depuis quand date votre CAN, comme vous le soulignez à juste titre. Détestable. Deuxième chose, c'est que ça devient un régime autoritaire maintenant, ces FIFA, là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vacance du pouvoir en Afrique et boum! Je dirais pas que c'est une dictature, mais c'est un régime autoritaire qui arrive et qui dit vous allez nous obéir. Nous sommes le pouvoir. Vous êtes un sous-continent, boum, je vous tape dessus. Détestable. Troisièmement, quelle hypocrisie. Parce qu'en fait, il veut placer son mondial des clubs.
Exactement.
Qui à lui va rapporter de l'argent.
Lui, il réorganise les compétitions mondiales.
Mais oui, donc il a tendu un piège éhonté que vous soulignez tout à l'heure. On joue à 24. Ah bah, comme c'est à 24, on peut pas le faire tous les 2 ans. Donc on le fera tous les 4 ans et moi je place mon mondial des clubs. Tout ceci est purement scandaleux du début à la fin. Plus jamais je n'accorderai la moindre once de crédibilité à ce monsieur Infantino. Il s'en fout d'ailleurs, mais bon.
pas si sûr. Là, je crois que ça va peut-être le faire reculer.
Bruno, vous qui avez un œil peut-être plus extérieur ou plus distancé du football en Afrique et du continent africain, Comment voyez-vous les choses et cette proposition de Gianni Infantino?
Ce que disait Gilles, ça ressemble un peu à une mise sous tutelle d'un chef
d'entreprise. Alors, elle était sous tutelle depuis 6 mois.
Non, mais d'une mise sous tutelle, clairement, en disant, voilà, vous ne travaillez pas assez bien, vous n'êtes pas assez rentable, c'est moi qui vais reprendre le bébé, c'est moi qui vais réorganiser tout ça et qui vais faire du profit, de l'argent, tout simplement. Après, dans tout ça, il faut essayer de faire la part des choses. Est-ce que c'est une bonne chose? Là, je me posais la question, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de faire une canne tous les 4 ans ou pas?
À 24, tous les 2 ans, ça paraît compliqué.
Parce que quand ce que tu disais, Hervé, effectivement, on ne peut pas comparer la canne à l'euro, par exemple. Un euro tous les 4 ans, c'est très bien. Tous les 2 ans, ça serait, y a la Ligue des Nations maintenant qui est une compétition différente, ça ne serait pas bon. La canne, et je suis d'accord avec Hervé, je pense que l'Afrique a besoin d'une compétition tous les 2 ans. Mais 24 équipes tous les 2 ans, c'est pas possible. Après, sur ce qui est de juin ou janvier, quand la nouvelle a été annoncée de rejouer en janvier, je vous raconte pas les clubs anglais qui ont des joueurs africains, notamment Union
Cup. On imagine.
Il a dit c'est une catastrophe. Oui, si on doit se séparer de 3 ou 4 joueurs pendant plus d'un mois, c'est une catastrophe absolue. Donc les clubs vont pas être contents, ils vont vouloir pousser auprès de la FIFA.
Antoine, avant qu'on revienne vers vous pour savoir un petit peu ce qui se disait off the record, comme on dit, en dehors des micros, eh bien d'abord, écoutons ce que vous ont dit certaines personnes dans votre micro, et notamment la réaction et le commentaire du président de la fédération sénégalaise, Augustin Senghor.
Une idée a été lancée, on va apprécier. Si des réformes sont nécessaires, il faut avoir le courage de les faire. Mais le préalable, c'est de bien en maîtriser les tenants et aboutissants, parce que ce qui prime d'abord, c'est faire en sorte de ne pas perdre aussi nos acquis, mais aussi faire en sorte, surtout, que l'Afrique trouve sa place dans ce concert de compétitions qui sont en cours actuellement, et que si c'est seulement pour faire de la place aux autres, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, si ça peut permettre de mieux structurer nos compétitions, mieux les valoriser, et que dans les années, c'est-à-dire où il y a un vide parce qu'il n'y aura plus de CAN, on nous propose autre chose qui permette aux équipes africaines, aux joueurs africains de pouvoir continuer à évoluer, pourquoi pas entre 2 CAN organiser une Ligue des Nations africaines, puisque c'est à la mode.
Le président de la Fédération du Mali aussi, Samir Soba, réagissait à peu près de la même manière. On va écouter plutôt un ancien vainqueur de la compétition, le lion indomptable Patrick Mboma, plutôt favorable.
Arriver à une CAN tous les 4 ans, enfin moi j'étais content de la jouer tous les 2 ans. Ça permettait d'avoir plus de chances d'en gagner. Mais à part cette boutade, je pense qu'il faut peut-être revenir à un peu plus d'exclusivité pour avoir un meilleur attrait. Et c'est vrai que sa réflexion n'est pas dénuée de sens, de se dire que si on laisse passer de 4 ans, peut-être il pourrait y avoir un intérêt, mais encore faut-il que le produit à vendre soit redéfini. Je pense qu'aujourd'hui, il faut lui donner un autre relief.
Voilà l'avis de Patrick Mboma, alors que, par exemple, notre confrère de l'Union de Libreville, aujourd'hui, Willing Dong, donne la parole à Daniel Cousin, panthère gabonaise et ancien, lui aussi, joueur de cette compétition et qui, lui, est complètement contre. Donc, les avis sont partagés. Et puis, je corrigerai, Samir Soba est le président de la Fédération de l'île Maurice et non pas du Mali. Antoine Grenier, en dehors de ces réactions dans votre micro, est-ce que vous avez entendu des notes très discordantes, voire pas contentes, voire furieuses à Rabat?
Il y avait un éventail assez large de réactions, vous vous en doutez, Annie.
54
il y a quand même
oui.
54, voilà, c'est ça. On peut pas mettre tout le monde d'accord, jamais. En revanche, l'inquiétude, elle est très présente et ça s'est senti. Je vous ai parlé tout à l'heure du silence gêné qu'a reçu la proposition de Gianni Infantino. L'inquiétude, elle porte sur plusieurs points. Bon, déjà, les présidents africains des fédérations, là, on touche à l'histoire de leur compétition phare. Et puis, surtout, tout à l'heure, je crois que c'est Gilles qui parlait de l'aspect, ou Hervé qui parlait de l'aspect sociologique de la CAN. L'aspect financier compte, il est très important pour certaines fédérations de pouvoir jouer la CAN tous les 2 ans avec ce que ça peut rapporter à la fédération en cas de bon parcours, et on peut vivre avec une partie de ce qu'on a gagné à une CAN pendant les 2 ans qui viennent en attendant la suivante. Donc il y avait pas mal d'inquiétudes de ce côté-là. Du côté des présidents de fédération, mais les discours officiels, eux, on en a entendu certains, ils sont très mesurés. Alors c'est peut-être l'effet de la carotte et du bâton, c'est-à-dire que Gianni Infantino, quand il est arrivé pour proposer le bâton, passer cette CAN à 4 ans, tout en restant quand même assez voilà, c'est votre décision, c'est votre choix. Enfin, il a fait semblant de rien imposer. Il a à côté de ce bâton, il a aussi la carotte du milliard d'euros pour les stades, de nouvelles compétitions de jeunes, du développement du foot féminin en Afrique. Donc on a senti des présidents de fédérations inquiets, mais quelque peu pieds et poings liés par rapport à la FIFA.
Oui, c'est un peu la sensation qu'on a, Gilles, que la décision est déjà prise. D'ailleurs, sur le site de la FIFA, aujourd'hui, dans la réorganisation des compétitions, David Kalfa, qui suit beaucoup ce dossier, et vous trouverez ses écrits sur le site RFI, eh bien, me montrait que c'est déjà pratiquement acquis qu'il y aurait une CAN tous les 4 ans.
Bien sûr. Et ce qui me fait mal, moi, c'est que je vous donne un milliard et vous vous couchez, quoi. Ça, c'est ce qu'il fait, Infantino. Je vous donne un milliard, vous vous taisez, vous obéissez, sinon vous n'avez pas de milliard. Ça me choque. Ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que la CAN s'est fragilisée. Toutes ces éditions où il n'y avait pas de pays hôtes, pas d'infrastructures, pas de stade, ça faisait désordre. Donc Infantino, qui est un fin politique, un hypocrite, madré héroé, mais un fin politique, il a beau jeu de rentrer dans le vide du pouvoir. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que là où je suis vraiment triste, c'est que normalement, la FIFA doit défendre le football de sélection, qui est déjà moribond, parce que l'UEFA veut le tuer et est omnipotente. Et lui, il tue le football de sélection. C'est-à-dire qu'il met tout le monde au pas. Il n'y aura plus de CAN tous les 2 ans. En Amérique du Sud, on met ça tous les 4 ans. L'Euro tous les 4 ans. Il n'y a plus de sélection. Il y a des compétitions mineures. Le football de club va nous tuer.
Parce qu'il est en train de faire de la place aux grands clubs européens.
C'est ça. Mondiaux. Mais c'est pas son job.
Quand j'évoquais Jurgen Klopp qui se plaignait d'une CAN en janvier, et que c'est le cas de tous les entraîneurs de grands clubs qui ont des joueurs africains, ce qu'est en train de faire Infantino, c'est faire de la place aux clubs. Vous n'aurez, les joueurs africains ne seront absents qu'une fois tous les 4 ans. C'est ce qui, ça va se résumer à ça. Et terminé, ils seront contents avec une compétition tous les 4 ans, mais les clubs seront beaucoup plus contents.
Non, Hervé. Qu'on veuille redéfinir le football africain, moi ça me choque pas. Je vous le dis honnêtement, parce que vous rendez compte qu'il y a des pays aujourd'hui où les clubs n'existent plus. Bon, au Cameroun, il y avait des immenses clubs qui n'existent plus. En Côte d'Ivoire,
Hervé, qui redéfinit le football africain alors c'est l'instance de tutelle mondiale qui rentre en Afrique et qui dit
c'est justement
pour
là
vous.
Où je voulais
ça m'étonne
arriver.
De vous.
Non, c'est là où je voulais arriver au point précis. Ah. C'est-à-dire qu'à un moment. Taper sur Infantino, pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Surtout qu'effectivement, la manière dont il s'exprime, quand il dit oh, je crois que c'est depuis 57, ça c'est inadmissible. Parce que soit vous venez, vous connaissez
non,
votre dossier.
Il dit même pas. Il dit je sais plus depuis quelle année.
Vous faites depuis quand. Donc ça, c'est inadmissible. Je ne discute pas. Mais ce que je trouve d'autant encore plus inadmissible, parce que c'est bien facile de taper sur Infantino, mais vous n'avez pas une CAF. Il n'y a pas des gens qui la dirigent, cette CAF. Il y a bien des gens qui la dirigent. Il y a bien des gens qui ont des points de vue, qui peuvent se défendre. S'il suffit de leur donner un peu d'argent, enfin pas un peu, beaucoup d'argent, parce que là c'est beaucoup d'argent pour qu'ils s'écrasent, c'est qu'ils ont assez peu d'amour propre. Et là, je serais un petit peu scandalisé. Donc, je pense que d'un autre côté, il y a aussi les dirigeants de la CAF qui peuvent être mis en accusation. Même si, et j'écoutais aussi les propos de Senghor, le président Senghor, qui est l'un des présidents quand même importants
de référence. Mm-hmm.
Il y a une réflexion à mener. Il ne faut pas non plus dire il a tort sur tout, c'est absolument faux. Non, il faut refaire. Le football africain a besoin quand même de changement. Il y a des compétitions qui doivent être mises en place. Je vous dis, il y a des clubs. On parlait des infrastructures, évidemment. Mm-hmm. Alors là, l'histoire de donner de l'argent comme ça en disant on va construire des stades à droite à gauche, je trouve ça un peu nébuleux à mes yeux.
Bon, regardez les stades abnormes FIFA de l'Afrique du Sud, ils ne servent pas.
Bah, exactement.
Celui du Cap, exactement. Il ne sert pratiquement jamais. Il n'a même pas servi à la CAN en 2013.
Ce sont souvent des vœux pieux, mais c'est surtout histoire de dire on va vous donner de l'argent, vous ne faites pas de soucis, c'est comme ça qu'on va vous acheter. Et alors là, je rejoins Gilles, et ça, il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là. Mais n'oublions pas qu'en face, vous avez donc des gens de la CAF qui ont du poids. Ils ont le droit aussi de se défendre et de se battre avec leurs armes.
Une dernière petite question, et de toute façon, les prochains jours, on reviendra sur ce sujet, Antoine, mais est-ce que la mission de Fatma Samoura est terminée? Parce qu'on a remarqué le communiqué de la CAF qui remerciait le travail fourni. Tout en disant qu'une étroite collaboration entre FIFA et CAF allait continuer, mais est-ce qu'elle reste à la tête de la CAF finalement ?
Non, elle n'était pas vraiment à la tête de la CAF. Elle était à la tête d'une commission conjointe qui devait me proposer des réformes au président de la CAF. Non, c'était d'ailleurs la volonté, pas exprimée officiellement, mais c'était la volonté de la Confédération africaine et des présidents de fédération de voir Fatma Samoura partir pour pouvoir continuer les réformes qu'elle aura proposées à travers sa commission, mais sans elle, d'autant d'autant que il faut pas oublier que le président de la CAF, il lui reste qu'un an de mandat. Il y a une élection présidentielle qui se prépare l'année prochaine. Il va falloir faire campagne et ça aurait été compliqué d'imaginer une CAF sous, entre guillemets, sous tutelle, parce que c'est forcément plus compliqué que ça, mais d'imaginer une CAF sous tutelle de la FIFA mener une campagne qui aurait été une campagne de fantoche oui. De façon encore plus visible que ça ne pourrait l'être que ça ne pourrait l'être effectivement.
Oui, ça aurait donné la sensation que ça lui rongeait du pouvoir. Merci beaucoup Antoine Grenier de nous avoir raconté un peu ce qui se passait là-bas du côté de Salé. À très bientôt Antoine, merci. Je rajouterai que nos auditeurs, eh bien, eux aussi, ils ont fait une opinion en écoutant les propos de Gianni Infantino et ceux des dirigeants du football africain. On a mis un petit sondage sur notre page Facebook en leur demandant s'ils étaient pour ou contre une CAN tous les 4 ans. Très largement contre, 81% des 5000 votes qui se sont exprimés pour l'instant sont contre. Et bien sûr, vous pouvez continuer à voter pour nous donner votre avis.
Et c'est assez logique, parce que je parlais du rôle un peu social. Parce
exactement.
Que c'est pour ça qu'il faut comprendre les choses. C'est pour ça qu'effectivement, on ne vient pas de l'extérieur, comme ça, en balançant des grandes bananes.
Non,
non, il faut bien réfléchir.
On va sur le terrain, non?
Ouais, il faut non, mais je parlais d'Infantino, là. Je parlais d'Infantino. C'est-à-dire qu'il arrive, il balance des...
Le côté social.
Mais ce côté social, ça, c'est important. Et c'est pour ça que c'est pas simple. Attendez, moi, j'ai pas un avis ultra définitif. Je vous dis, moi, l'histoire, à partir du moment où on est passé à 24 et que je sache, c'est quand même la CAF qui l'a demandé, sur pression peut-être ou sur requête peut-être de la FIFA, mais à partir du moment où on est passé à 24, je trouvais très compliqué effectivement après d'arriver une CAN tous les 2 ans parce que c'est une semaine de compétition en plus, c'est pas simple. Et moi, j'ai hâte de revoir un football africain qui domine plus qu'il ne fait aujourd'hui, si ce n'est le monde en tout cas qui aille beaucoup plus loin en Coupe du Monde. Donc il va falloir quand même, il y a des aménagements à trouver.
Il y a des choses à faire, c'est sûr. Et nous suivrons ces évolutions, ces débats et ces discussions.
Tottenham Hotspur do City and Spurs once more expect anything.
Il penalty est accordé.
Oh, Luis, magnifique!
Carton rouge pour Manchester City, Alexandre Zinchenko.
Lucas Moura.
Pogway!
C'est lui qui fait le 2.
C'est dingue, c'est le petit nouveau.
C'est le nouveau.
Welcome to the Premier League, monsieur Bergwijn.
L'efficacité, la froideur derrière du buteur Grinson. 1+1 égale 2-0.
The very finest traditions of the English Premier League.
It's Tottenham 2, Manchester City 0.
Vous reconnaissez le foot anglais, Bruno Constant?
Quand c'est dans les voix françaises, j'ai du mal.
Bon, mais il y a les deux quand même, heureusement pour nos auditeurs et pour nous. Les Spurs mettent en leur jardin, en tout cas, le large sourire de satisfaction de José Mourinho sur son banc en disait long sur la joie de Tottenham, vainqueur donc de Manchester City, du Manchester City de Pep Guardiola. Mourinho a-t-il enfin trouvé la clé face à ce rival, à lui tout seul ou quand sur le banc d'en face, évidemment, il y a Guardiola? Ou alors est-ce que c'est son équipe, Son, Aurier, Gundogan et leurs camarades qui ont été plus réalistes et finalement beaucoup plus efficaces?
C'est une bonne question. En Angleterre, on ne voit pas ça comme la masterclass de Mourinho face à Guardiola, parce qu'on trouve qu'il y a eu beaucoup d'événements dans ce match qui ont pu faire basculer le match d'un côté comme de l'autre. City aurait pu plier le match en première période, ils ont dominé et ensuite
ils ont même eu un penalty.
Ils ont eu le tournant.
On y reviendra parce qu'on va écouter Hugo Lloris.
C'est évidemment le penalty sauvé par Hugo Lloris, mais
il y a deux tournants,
encore beaucoup de choses à dire sur ce penalty. Il y a aussi un joueur, Raheem Sterling, qui aurait pu être expulsé dès la 12e minute, une grosse faute sur Dele Alli. Enfin voilà, il y a beaucoup de situations, interprétations et à discussion qui font que.
Et puis il y a eu une expulsion juste avant le premier but.
Et il y a eu l'expulsion de Zinchenko, effectivement, qui est un deuxième tournant dans ce match. Mais c'est, pour moi, c'est surtout, plus que le match de Tottenham, c'est surtout la confirmation de Manchester City qui se délite un peu sur cette quatrième saison de Guardiola. On parlait beaucoup du syndrome de la troisième saison de Mourinho dans ses différents clubs.
On va y venir.
Et à City, on se pose la question de cette quatrième saison de Guardiola. Qui rappelle un petit peu ce qui s'était passé à Barcelone. Sa dernière saison, c'est 2011-2012. Il sort d'une saison extraordinaire en 2011 où il gagne quasiment tout. Il gagne notamment la finale des champions à Wembley face à Manchester United. C'est une démonstration absolue. Ferguson avait reconnu le talent de cette équipe de Barcelone. Et derrière, ils font quasiment une saison blanche qui est sauvée par une victoire en Coupe du Roi. Et c'était un peu le même esprit, c'est que City était tellement haut, tellement exceptionnel depuis deux saisons, que là, on les retrouve plus vraiment.
Double champion.
Il y a une espèce d'usure psychologique, physique.
Tottenham, Gilles, alors ça allait plus ou moins bien avec Pochettino, même s'ils étaient toujours dans le top au moins 6 d'Angleterre. Ça allait un peu moins bien, il est remplacé par Mourinho. Est-ce que Mourinho, finalement, fait du bien à cette équipe? Parce que là, c'était un peu un test.
Il ne leur fait pas de mal du tout, donc quand, comme il ne leur fait pas de mal, il leur fait du bien. Alors, c'est plus, honnêtement, je trouve que c'est plus le Mourinho qui révolutionnait, surtout psychologiquement, parce que si Mourinho a, à mon avis, a amené quelque chose au football, ce sera pas un apport tactique, mais mentalement, il a amené une gestion des joueurs incroyable.
Oui, il avait fait un peu avec Dele Alli, c'est ça, Bruno. Quand il est arrivé, il lui a dit, mais c'est bizarre, il y a ton jumeau qui joue vachement bien,
très
et toi.
Très fort, il s'est remettre en question. Alors, il est peut-être un peu moins fort qu'avant, mais il n'empêche que il a réussi à faire de cette équipe qui ne fonctionnait plus une nouvelle machine à gagner. Et lui, s'il a réussi quelque chose dans le foot, c'est de concocter des machines qui gagnent. Et là, ça gagne. Alors, c'est pas flamboyant. Ce sera pas champion d'Angleterre. Mais c'est un Tottenham, dans les années à venir, je veux dire, parce que là, c'est plié. Mais c'est un Tottenham que je trouve mieux construit, mieux équilibré, plus sérieux, qui refait un peu peur à ses adversaires. Donc oui, je réponds clairement à votre question.
Et sans Harry Kane, en plus.
Et sans Harry Kane. Donc, oui, mais... Est-ce qu'Harry Kane est le prototype du joueur que veut Mourinho? Je ne sais pas. Ça redevient une machine, une petite machine, mais une machine. Donc oui, Mourinho a déjà réussi.
Hervé?
Oh, j'attendrai un petit peu pour juger de son apport à Tottenham. Ce qui est certain, c'est qu'il a remis un peu d'équerre le groupe, puisqu'ils sont maintenant revenus en lutte vraiment pour la quatrième place. Quatre points de la quatrième place. Donc ils ont encore la capacité à remonter. Et puis avec le retour de Loris, ça sera un plus de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai que voir ce match-là, par exemple, comme la victoire d'un entraîneur sur un autre, je le dis souvent ici, parce que moi, c'est quelque chose.
Non, c'était un peu en pointillé. Non,
mais je sais,
sûr.
Parce que comme à une époque, on expliquait toujours Guardiola avait. Enfin, Mourinho avait beaucoup de difficultés.
Non, mais c'est au nom du passé aussi, Hervé, ce qui se passa.
C'est vrai, mais comme un match a toujours pas mal d'histoires.
Entre Barça et Real.
Et c'est ce qui s'est passé cette fois-ci, avec des vrais faits de jeu très, très importants. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr pour Tottenham, c'est qu'au moins, ils ont la sensation qu'ils n'ont pas fait une erreur en prenant Mourinho pour l'instant. Et ça, c'est important, parce que rappelez-vous, quand même, quand il est arrivé, il y avait quand même pas mal de critiques en disant, mais Mourinho, il a plus la main, c'est plus le Mourinho d'avant. Mais c'est quand même un Mourinho qui, chaque fois qu'il est arrivé dans un club, il a gagné quelque chose quasiment. Ouais. Parce que même avec Manchester United, on a beaucoup critiqué, il a gagné avec Manchester United.
En tout cas, dans cette équipe, donc, est revenu l'un de ses joueurs importants, gardien, capitaine, l'international français, champion du monde, Hugo Lloris, est revenu au meilleur de sa forme. En tout cas, écoutons-le.
C'est mon troisième match en 10 jours et il faut tout de suite se mettre au niveau. Et c'est un penalty. On essaie d'attendre le plus longtemps possible et on prend la décision. Ça a été la bonne. Ça tire un peu. Non, mais après c'est normal. Après 3-4 mois de sans match et puis en l'exigence de la première ligue, l'intensité, ça va d'un but à l'autre. Et également j'ai fait le nécessaire à l'entraînement pour revenir à ce niveau-là. Maintenant, il faut le garder, continuer à monter en puissance parce qu'on a besoin de tout le monde jusqu'à la fin de saison. La saison est longue, il y a également un Euro, donc voilà.
Mais c'est pas mal que Hugo Lloris revienne au top parce que effectivement, on se souvient, il s'était cassé l'épaule et c'était en gros
le coude.
Et c'était en retombant mal pendant un match. Et c'est au bon moment pour cette équipe de Tottenham.
Oui, on se posait des questions déjà de savoir comment il allait revenir. Mm-hmm. L'inquiétude était évidemment pour l'équipe de France et l'Euro. Et dès son retour, il est décisif. Et là, effectivement,
justement décisif sur les pénaltys parce qu'on avait la sensation ou l'impression ou l'idée que c'était son point faible.
C'est surtout qu'il n'en avait pas arrêté pendant très longtemps. Mm-hmm. Et là, on vérifiait les stats. C'est donc le quatrième sur les 6 derniers qui repousse. Et il a même un ascendant psychologique sur Sergio Aguero. Parce que c'est Aguero, le tireur de pénalty de Manchester City. Et là, il a cédé sa place à Gundogan. Et il faut se rappeler qu'en Ligue des Champions de la saison passée, Lloris avait repoussé le tir au but d'Aguero au match aller, qui avait changé beaucoup de choses. Qui avait peut-être même qualifié Tottenham au retour. Mm. Donc, et puis surtout, Tottenham avait joué avec son deuxième gardien depuis quelques mois, donc Gazzaniga, et on voit bien qu'Hugo Lloris, c'est une différence énorme dans cette équipe. Il est capable de faire gagner son équipe, alors que Gazzaniga essayait de ne pas la faire perdre.
Mmh. Gilles.
Alors, sur le pénalty, fantastique, mais les deux pieds n'étaient quand même pas tout à fait sur la ligne.
Absolument. Donc, mais,
il aurait dû être retiré.
Mais les Anglais disent qu'ils n'appliquent pas cette règle, c'est ça ?
Non, c'est pas ça. C'est que le VAR ne peut pas intervenir sur cette sur cette situation. Non. C'est au l'arbitre assistant de le voir en fait. Ils sont un peu fait payer pour ça. Et...
Comme il l'a pas vu. Donc l'arrêt de Lloris a été validé. Mais je trouve qu'il y a une sorte d'injustice faite à Lloris. Moi, on le considère parfois comme un gardien un peu mou, une sorte de gardien un peu émollient. En fait, c'est un guerrier, quoi.
Il est extrêmement sévère avec lui.
Mais oui, et en équipe de France aussi, on dit « Oui, c'est un capitaine langue de bois ». Mais c'est un vrai guerrier qui galvanise ses troupes. C'est pas pour rien que quand il revient, il gagne, qu'avec les Bleus, ça marche. Je trouve qu'on n'est pas tout à fait juste. Je trouve qu'il a un langage corporel qui n'est pas agressif et qui le dessert. Alors qu'au contraire, il y a ce calme dans la gestion du gardien et cette énergie à transmettre aux autres. Donc, c'est une sorte de gardien parfait pour moi.
C'est un gardien parfait pour vous aussi,
Parfait, Hervé, j'irais peut-être pas jusque-là, parce que la perfection, vous savez, elle n'existe pas, ou peu. Mais bon, je sais que vous aimez bien me regarder comme ça. Mais Lloris, non, mais tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France, c'est évident. Il ne faut pas oublier que c'est quand même celui qui a détrôné Mandanda, parce qu'à l'époque, c'est Mandanda qui était le numéro 1 en équipe de France. Il fallait être fort à une certaine époque pour.
Il est redevenu fort, d'ailleurs, Mandanda.
D'ailleurs, il est redevenu fort pour prendre la place de Mandanda. Et pour avoir une telle confiance de la part de quelqu'un comme Deschamps, qui ne se trompe pas tellement souvent dans ses choix d'hommes, alors là, on dépasse le cadre simplement du foot, hein. C'est-à-dire s'il le prend comme capitaine, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il apaise, il est à la fois guerrier, tu parles de son côté guerrier, et puis il a un côté apaisant, tranquillisant.
Il est extrêmement respecté à Tottenham.
Voilà, très respecté, parce que ça fait un peu... Alors que bon, c'est quelqu'un qui aime la vie aussi, hein. Attention, on se souvient du petit procès qu'il a pu avoir. Donc c'est pas simplement, vous savez, quelqu'un de tout mou qui est dans son coin, pas du tout. C'est quelqu'un de vivant, de très vivant.
Assez méconnu. Il reste très discret. Une sixième défaite, en tout cas, pour Manchester City. Et voilà les Reds, vainqueurs de Southampton 4-0, à 22 points devant leur dauphin. Que se passe-t-il dans cette équipe ? Est-elle fatiguée, usée, prévisible ? En tout cas, eh bien, écoutons Pep Guardiola, parce que la question lui a été posée par un de nos confrères sur le fait que les Citizens sont-ils résignés ? Ont-ils perdu le titre ? Eh bien, il a répondu, Pep Guardiola.
Nous sommes trop loin. Ils sont imbattables. Il y a trop de points. Maintenant, nous visons d'autres compétitions et on veut se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine.
Sixième défaite. Est-ce que c'est logique pour cette équipe qui est donc avec 22 points de penser à d'autres compétitions ou à d'autres trophées ?
Bah, c'est pas logique, non, parce qu'une équipe comme Manchester City qui a autant dépensé sur le marché des transferts depuis 4 ans, c'est pas logique.
N'aurait pas dû.
C'est pas logique qu'au mois de janvier ou début février, il soit à 22 points du leader. Ça, c'est un échec monumental pour Guardiola, mais il faut pas oublier.
Il lui reste combien de contrats
Il lui reste un an de contrat.
Un an.
Un an de contrat. Il y a eu des questions autour de son avenir. Lui dit qu'il va rester. Si on le vire pas, il restera. Mais c'est ce que je disais. Il y a ce syndrome de la quatrième saison. Et qui ressemble un peu à son passage à Barcelone. Il y a toute la pression qu'il a sur la Ligue des Champions. Il le dit lui-même, si je ne gagne pas, si je quitte Manchester City sans gagner la Ligue des Champions, tout le monde considérera que ça sera un échec.
Au Bayern de Munich.
Exactement, c'est exactement ça. Et on l'a fait venir pour ça, Manchester City.
Alors qu'il aura été double champion d'Angleterre.
Oui, avec des standards exceptionnels sur les deux dernières saisons. Et c'est juste que là, ce qui nous manque, c'est qu'on n'a pas eu le combat qu'on avait eu la saison passée entre Liverpool et City. On a Liverpool qui est juste extraordinaire et Liverpool qui pourrait être sacré dès le 21 mars si ça continue comme ça. Et la journée suivante, donc après le 21 mars, c'est un match à Manchester City. Et la tradition veut que l'équipe qui reçoit le champion fasse une
haie d'honneur.
Donc ça serait un symbole énorme de l'équipe de Guardiola qui accueille Liverpool champion, nouveau champion.
En mars.
En mars.
Dans un championnat le plus relevé du monde.
Le Chelsea de Mourinho avait été sacré en mars aussi, hein, il me semble. Et après, ils avaient commencé à s'écrouler un peu.
J'avoue que j'ai pas le...
Il me semble que c'était en mars. Gilles.
Vous le disiez, 6 défaites pour Manchester City, autant qu'Arsenal, qui est 10e, c'est-à-dire 25 matchs joués, 6 défaites, 1 sur 4. Ce chiffre illustre totalement vos propos. C'est trop, pour être honnête.
Et
qu'est-ce
qui
se passe ?
Et autant que sur les deux dernières saisons de City.
Absolument. Donc, Manchester City, clairement, a choisi de ne pas disputer à Liverpool le championnat d'Angleterre. Parce que Guardiola veut la Ligue des Champions. Mais oui, c'est un choix.
Mais deux fois champion.
On ne choisit pas les compétitions.
Ah, ben oui. Dans trois semaines ou dans un mois, vous reviendrez me voir en disant, Gilles, comme d'habitude, tu avais raison. Et j'accepterai vos excuses. Faites-les maintenant.
Justement.
Ça vous évitera de parler.
Sauf que Gilles, vous avez vu le tirage au sort. Hein, il se retrouve avec le Real Madrid.
Absolument. Ah, ben voilà. Ah, ben alors, c'est le tirage au sort. Mais néanmoins, avant que le tirage au sort me donne tort, Guardiola veut gagner la Ligue des Champions. Et c'est cette saison. ça, excusez-moi, mais cette saison, ça ne l'intéresse pas, les joutes domestiques. Il a tout gagné la saison dernière. Alors, il aura encore une coupe ou deux, très bien. Mais ce qu'il veut, c'est l'ensemble des coupes et c'est la Ligue des Champions. Il savait d'emblée que Liverpool était trop fort. C'est plus leur saison. Ils ne peuvent plus rivaliser avec les blessures sur une année. Donc, ce sera une équipe de coupe cette saison, Manchester City.
Non, je crois que c'est méconnaître l'état d'esprit de Guardiola, qui ne pense qu'à gagner, qui s'endort pas après un match, qui fait des nuits blanches pendant 4 jours s'il a perdu un match, et il prépare de la même manière le match suivant. Donc autant dire, il dort pas pendant une semaine. Donc je pense que s'il s'en manquait, non, il y a pas de choix. Vous savez, à ce niveau de compétition, il y a aucun choix.
Il ne dira jamais.
Il y a de la gestion. De rotation, mais il n'y a pas de choix. Il n'y a aucun choix. Sur une compétition.
Et puis, il ne peut pas se le permettre. Parce que si vous êtes vraiment ultra. Mais si on est sur une série très négative, il n'a aucune chance de battre le Real Madrid. Ça n'existe pas, les équipes qui sont complètement nulles quelque part. Et puis, d'un seul coup, il dit mercredi, il faut y aller. Bon, pas de problème, coach. Mercredi, on est bon. Non, parce qu'à un moment, vous savez, ça commence à impacter sur le mental des joueurs. Hein, et puis, l'état d'esprit n'est plus tout à fait le même. Alors, il y a eu le départ de Laporte. Enfin, le départ,
mais
la blessure de Laporte qui a fait beaucoup de mal.
Ils sont trop usés, ils sont trop fatigués.
Parce qu'au bout d'un moment, quand vous sortez.
Style Guardiola.
Non, c'est même pas ça. C'est quand on sort de telle saison, mais c'est partout pareil. Hein, on l'a vu dans plein d'autres équipes de haut niveau, surtout dans tel championnat où il y a vraiment une dureté dans
tous les
affrontements.
Les week-ends. Mm-hmm.
C'est que à un moment, vous êtes tellement battu pour gagner quelque chose. L'année dernière, c'est des saisons à quasiment 100 points. C'est-à-dire que mentalement, vous puisez une énergie folle. Et qu'à un moment, quand vous êtes sur le terrain, vous faites l'effort un petit peu moindre. Et ce qui fait qu'à un moment, le match que vous gagnez à l'époque 2-0, vous ne le gagnez pas, vous ne le gagnez plus, vous faites match nul ou vous le perdez. Et ça, c'est ce qui va arriver à Liverpool l'année prochaine. Parce qu'il ne faut pas croire que l'année prochaine, Liverpool, ils vont faire une saison sans perdre un match. C'est impossible parce que ça n'arrive pas. Et pourquoi ça n'arrive pas? Parce que c'est inhérent au footballeur lui-même. Alors, effectivement, la chance qu'il peut avoir.
Est-ce qu'à partir du 21 mars, ils vont se mettre à perdre?
Non, mais non, pas du tout. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait un coup de barre après s'ils sont champions, parce que la chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont, ils essayent d'attraper des records. Le Paris Saint-Germain n'avait pas cette chance-là. Alors Paris Saint-Germain, quand ils étaient champions au bout de 27 journées ou je ne sais pas 30 journées, d'un seul coup, ils ont explosé. Mm-hmm. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à gagner. Tandis que ce Liverpool-là, qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, ils ont un truc incroyable à faire. Si d'ici le 21 mars ou un peu plus, quand ils seront champions, ils sont invaincus toujours. Mais là, ils vont tous vouloir décrocher cette année sans perdre. Et là, c'est un objectif énorme. Une fois que les objectifs sont atteints, c'est vrai que sinon, on peut avoir une sorte de décompression. Mmh. Mais pour City, il va falloir qu'ils se remettent en Ligue des Champions. Mais attention, ce n'est pas un City qui est complètement à la rue non plus. Ce n'est pas un City qui serait sixième du championnat. Ils sont deuxième du championnat d'Angleterre, même s'ils sont très très loin de leurs prévisions.
Un petit mot, messieurs, c'est sur la dernière recrue du mercato d'hiver. Du côté de Manchester United, ils ont recruté un international africain, le Nigérian de 30 ans, Ighalo, Odion Ighalo, qui arrive de Shanghai, Shenhua, c'est... Alors lui, il dit c'est un rêve qui devient réalité.
Parce
on
que c'est un,
bien.
Fan, c'est un fan de United. Mm-hmm. Il adore ce club de United. C'est un joueur qui était passé par Watford, qui avait très, très bien réussi à Watford sur la première saison, un peu moins sur la deuxième. C'est un choix un peu surprenant quand même. C'est un prêt d'abord. C'est parce que United a perdu sur blessure Marcus Rashford. Mm-hmm. Pour 3 à 4 mois. Pour une fracture de fatigue. Et United est dans une situation très compliquée. Ils ont besoin, ils manquent d'expérience devant, ils manquent de buteurs devant. Anthony Martial voulait absolument jouer en pointe. Et on voit bien que ce n'est pas un numéro 9. Il est qu'à 8 buts, je crois, depuis le début de la saison au championnat. Il faut espérer qu'Ighalo puisse leur apporter des buts qui manquent énormément. Et on l'a vu encore le dernier match, ils font 0-0 à domicile face à Wolverhampton.
Hervé.
Oui, c'est vrai qu'Ighalo avait été l'un des hommes forts, les hommes clés du Nigeria durant la CAN. Mm-hmm. Et c'est un vrai buteur. Maintenant, j'espère pour lui que le niveau ne sera pas un petit peu trop élevé. Ouais. Même si ce Manchester United-là, ce n'est pas non plus celui d'un temps ancien.
Gilles.
Tant qu'ils n'auront pas d'entraîneur, Manchester United, ça ne marchera pas.
Merci, Gilles, pour cet éclairage.
Il vient peut-être comme entraîneur-joueur. Hein. Il vient peut-être comme entraîneur-joueur.
Qui sait, à 30 ans, il pense déjà à la retraite. Allez, on continue.
En football, un nouveau venu, c'est tout un programme, d'ailleurs, ce nom, Trésor, le musée d'Ajaccio.
Oui, Marius Trésor. Ajaccio, 1969.
C'est un défenseur de classe, très jeune encore, qui a besoin de s'affirmer, mais qui promet beaucoup.
Marius met le cap sur
Marseille, 1972.
C'est là qu'il fait l'essentiel de sa carrière. Au début, l'OM joue les premiers rôles. Ce n'est malheureusement plus le cas, 8 ans plus tard, où il est l'un des rares à surnager.
Avec les Girondins de Bordeaux,
1980.
Ça a été pratiquement pour moi une deuxième jeunesse.
On va honorer une légende à vivre du football français.
Et rappelez-vous de cette magnifique reprise de volée.
Oui, oui, Marius Trésor.
Oui, Marius.
Reprise de volée.
France et RFA, nuit de Séville, 1982.
Reprise de volée de Trésor. Et but à la troisième minute, but extraordinaire de Marius Trésor.
Merci, merci.
enchanté, nous, les plus anciens. Il a été un très grand joueur de football français des années donc 70 et 80, un maillon essentiel de l'équipe de France de Michel Platini. Mais même pour lui, l'âge de la retraite a sonné. Marius Trésor, le grand, l'élégant libéro des Bleus et des trois clubs, donc Ajaccio, Marseille et Bordeaux. Souvenez-vous.
Je suis un enfant des îles, je suis né sous le soleil. Du côté de Pointe-à-Pitre, la vie a un goût de miel. J'ai quitté la Guadeloupe pour aller à Ajaccio. Mon cœur n'avait plus de doute, la Corse est un pays chaud. Sacré Marius, moi je viens d'un pays chaud.
Sacré Marius, hier soir, il a officiellement donc pris sa retraite avec un hommage de tout un stade, le stade Atlantique des Girondins. Ovation, tifo, applaudissements et émotion du natif de Sainte-Anne en Guadeloupe.
Je m'attendais vraiment pas à ça. Quand je débutais à Ajaccio, avoir une soirée pareille, franchement, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très touchant et je remercie la direction des Girondins de Bordeaux de m'avoir organisé un départ à la retraite aussi extraordinaire.
Un petit mot sur notre trésor national qui est Marius Trésor, Hervé.
Je vais être honnête avec vous, je vais me dévoiler. Moi, c'était mon joueur préféré. Donc Marius Trésor, pour moi, c'était quand j'étais jeune, c'était mon idole. Voilà,
moi, j'aimais ses chaussettes baissées sur les chevilles que maintenant on pourrait plus.
Pour un vieux souvenir, à l'époque, il y avait une guéguerre pour qui jouerait libéro. C'était libéro le poste à l'époque. Oui. Lui, il jouait avec Jean-Pierre Adams en défense centrale. C'était lui ou Lopez qui était le joueur de Saint-Etienne. Et moi, évidemment, j'étais à bloc pour Marius Trésor. Quand d'autres disaient non, mais Lopez, il a un tacle meilleur. Non, il n'y a pas meilleur que Marius Trésor. Et j'ai appris à le connaître par la suite où je l'ai rencontré. Et je peux vous dire que quand vous avez une idole et que vous dites, finalement, dans la vie, il est aussi bien que ce que je pouvais imaginer quand il était joueur, un type charmant, d'une gentillesse incroyable, invraisemblable.
Il travaillait encore donc au Girondins de Bordeaux, au centre de formation et dans la direction.
Il disait bonjour à tous les gens qui bossaient au Girondins de Bordeaux, qui étaient avec tout le monde, pareil.
Et beaucoup d'anciens internationaux français étaient là avec lui hier soir. Gilles.
Mais il a eu très peu de détracteurs, c'est vrai, dans toute sa carrière. Il a laissé vraiment une empreinte.
Et une image sur un terrain, n'est-ce
pas ? Incroyable, une sorte d'autorité naturelle, était très fort.
Presque décontracté en plus.
Oui, il y avait une certaine fausse nonchalance, exactement, et il était redoutable. Alors, il a laissé une empreinte plus forte que son palmarès, parce qu'il y a un titre de champion avec Bordeaux, il y a une coupe avec Marseille, la finale 67, c'était au Parc des Princes, j'y étais, je me souviens, 2-0 face à Lyon. J'étais jeune à ce moment-là, j'allais voir les finales de coupe.
Je crois qu'ils n'étaient même pas nés.
Et c'est vrai qu'il avait une sorte de grâce sur le terrain, cette allure majestueuse-là. Il était très fort. Après, on peut regretter que
la France n'ait pas gagné la Coupe du Monde en 82.
Et voilà. Et en 78 aussi, il y a cette main-là, ce qui laisse un petit souvenir amer. Mais quand même, 65 sélections, je crois, 4 buts. Donc, c'est un géant du foot français.
Il était le recordman des sélections, il faut jamais
le dire. Il a été absolument.
Bruno,
c'est un immense joueur. Et moi, quand j'entends parler, c'est son humilité. C'est resté quelqu'un de très simple. Moi, je l'ai côtoyé en travaillant sur les Girondins de Bordeaux. Et c'est impressionnant comme un tel joueur, un immense joueur comme ça, rester aussi simple, aussi proche des gens et d'une telle simplicité, c'est extraordinaire.
Extraordinaire.
Et quand vous le voyez, vous ne pouvez pas imaginer qu'il a 70 ans, je vous l'annonce. C'est impressionnant, c'est impressionnant.
Son but de 1982, Gilles, vous vous en souvenez autant que la Coupe de France ?
Bien sûr, c'est un chef-d'œuvre et puis il y a ce côté chef-d'œuvre pour rien. Qui nous laisse désespérer, mais on se souvient de cette puissance effectivement de la frappe.
C'est un corner.
Oui, c'est un but qu'on croyait libérateur, une frappe, et puis finalement tout s'effondre après. Mais ce geste-là, il restera pour l'éternité. Il nous reste ça par rapport à ce désespoir de ce match. Les beaux gestes pour l'éternité. Pas le résultat.
Et moi, j'ai un souvenir, j'étais chez mes grands-parents avec mon grand-père, un match, parce qu'à l'époque, on ne voyait pas autant de matchs qu'aujourd'hui, c'était même plutôt rare,
et
d'un France-Brésil. D'un France-Brésil où il y a eu 2-2 avec un but de Didier Six et de lui. Et moi,
La tournée au Maracanã.
Absolument.
La tournée de l'équipe de France en Amérique du Sud.
J'ai encore ça en mémoire, parce que je le regarde sur le corner, je le regarde que lui, puisque j'adore Marius Trésor, et je me dis, il va marquer, et je le vois s'élever, et hop, il marque ce but de la tête. Ouais. Magnifique. C'est-à-dire que Marius Trésor, c'est des souvenirs à jamais gravés.
Oui, et tous les jeunes qui ne le connaissent pas, je vous conseille d'aller regarder ses actions et certaines de ses gestes, justement, certains de ses gestes sur les pages ou Facebook, ou surtout sur Sacré Internet,
Marius.
Bien sûr. Sacré Marius, comme on l'entend. En tout cas, l'OM n'a pas encore réussi à battre Bordeaux hier sur son terrain, pas le 0-0. On va pas s'y étendre, on va passer au PSG. Le PSG, toujours leader, avec 12 points désormais d'avance sur l'OM. Victoire au Parc, 4-0 sur Montpellier. Et parmi ces 5-0, pardon, sur Montpellier, et notamment un buteur.
Gueye, Neymar, Neymar là aussi, Mbappé qui est lancé, Mbappé qui est lancé, le crochet, voilà, le but de Kylian Mbappé, ça c'est du grand grand classique, la sixième passe décisive cette saison de Neymar pour Kylian Mbappé, la conclusion c'est presque non banal mais c'est toujours aussi beau.
Pour moi c'est, je ne suis pas en colère, pour moi je suis triste de cette chose-là parce que ce n'est pas nécessaire mais... C'est sur la situation et j'ai lui expliqué pourquoi on a fait ça et ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Je vais décider toujours des choses sportivement et on joue pas du tennis, on joue du foot et pour ça on doit avoir respect pour tout le monde et voilà.
Kiki a marqué, il a marqué son 14e but avant-hier soir, mais Kiki fait la tête, Kylian Mbappé. Il n'en a jamais assez de ses minutes de jeu sur le terrain, il en veut toujours plus. Quand il sort, il n'est pas content, c'est pourquoi son entraîneur, il y a un instant, disait qu'il avait tenté de lui expliquer pourquoi. Est-ce que il en fait trop, Kylian Mbappé,
Pas du tout, pas du tout. Je lui donne totalement raison. Et cet entraîneur qui ne sera plus là dans quelques mois...
Je crois que vous n'aurez été jamais d'accord avec Hervé.
Ça va être difficile.
Hervé a du mal dans la compréhension des stars. Mbappé, c'est quelqu'un de particulier. Son entraîneur le sort, une mauvaise décision technique. Son
mais entraîneur... ils sont déjà 5-0, Gilles. Il peut se reposer, Kylian.
Il y en a eu 7 ou 8 avec Mbappé qui veut battre tous les records. Comme pourquoi Messi est ballon d'or ? Parce qu'il marque but sur but. Si on empêche Mbappé de marquer des buts, il ne sera pas ballon d'or. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est plus grave. C'est qu'il l'humilie après. Non seulement il le sort, mais il l'humilie sur le bord du terrain, cet entraîneur. Il l'humilie en lui faisant la leçon comme à un petit enfant. Vous savez ce qu'il va avoir comme récompense de cette humiliation, Thomas Tuchel ? Exactement. C'est que s'il reste, Mbappé s'en ira.
Thomas Tuchel partira.
L'un des deux, mais en tout cas, ce ne sera pas les deux. Et moi, vous savez pour qui je voterai. Bravo Kylian.
Nous aussi, sans doute. Hervé. Bon,
attitude déplorable de sa part.
De la part de Kylian,
Mbappé. Évidemment. C'est-à-dire qu'à un moment, le problème, c'est qu'à 20 ans, il a l'attitude 21. Déjà... 21 ans.
Et puis vous savez qu'il n'aime pas qu'on lui parle de son âge.
Oui, absolument. Mais enfin là, on va lui en parler quand même pour une fois. Et à 21 ans, il a l'attitude, si vous voulez, d'un Cristiano Ronaldo à 28 ou 29 ans ou d'un Messi. Effectivement, il y a certains joueurs, c'est compliqué de les sortir. Ou en tout cas, il faut discuter avant le match pour lui dire, à mon avis, je pourrais te sortir vers la 60e. S'il lui dit non, je ne sortirai pas, pas de souci, reste tout le temps sur le terrain.
Mais aujourd'hui, il y a Cavani derrière qui
voilà,
joue jamais.
C'est ce que je voulais dire. C'est qu'à un moment, il faut qu'il comprenne que le football, il a raison, c'est collectif.
Et c'est
surtout,
pas du tennis.
C'est que vous avez Icardi, Cavani qui sont sur la touche. Les autres ne sont pas contents de sortir aussi. C'est vrai. Mais il n'empêche qu'à un moment, il faut respecter Icardi. Là, c'était Icardi, je crois qu'il le remplace. Mais Icardi, il est rentré chez lui à la maison avec sa femme le soir. Quand ils ont mangé, sa femme dit, mais ce Kylian Mbappé, je ne veux pas dire les propos qu'il a pu tenir sur lui, mais ça a dû être assez violent. Parce que d'une certaine manière, ça veut dire, mais Icardi, valait mieux qu'il reste sur le banc. À un moment, il faut comprendre, il faut que lui se mette dans la tête qu'il est joueur de foot du Paris Saint-Germain, que c'est une méga star, c'est tout ce que veut. Mais il mène. Chaque fois qu'il l'a sorti, il avait marqué avant. Il n'a pas fait ça. Il a fait ça à dessein.
C'est surtout qu'il l'a déjà fait il y a quelques mois. Déjà contre Montpellier.
C'est la troisième fois que Kylian Mbappé n'est pas content quand on le sort.
Mais qu'il soit pas content.
Il l'a sorti à Nantes et à Montpellier.
Ça me dérange. Ça me dérange pas. Mais qu'il en fasse des tonnes et qu'il se prenne la tête avec son entraîneur sur le bord de la touche, ça c'est inadmissible. Après, il y a la deuxième erreur. Et là, je suis d'accord avec Gilles. C'est que son entraîneur fait une deuxième erreur catastrophique. Quand il sort son joueur, qu'il le laisse rentrer sur le banc, être pas content, etc. Quand il va dans le vestiaire, après, il va lui parler. Ou il nous explique alors en conférence de presse qu'il n'a pas aimé l'attitude de son joueur. Mais qu'il ne nous fasse pas devant les caméras ce qu'il a fait. Ça, c'est inadmissible aussi.
Qu'il avait fait la dernière fois déjà.
Déjà. Ce qui était déjà une erreur.
Il ne devait pas se rabaisser. Mais attention, c'est peut-être d'abord Mbappé qui a parlé à Tuchel, qui a peut-être voulu lui répondre.
Juste pour. En tout cas, il y a des statistiques simplement pour dire que quand Neymar joue, il n'est sorti que deux fois en 18 matchs.
Bravo,
depuis le début de la saison. Kylian Mbappé, sur 25 matchs, il est sorti 5 fois.
Voilà. Ils n'ont pas le même âge, c'est pas le même statut non plus.
Exactement. Voilà, sans doute.
D'ailleurs.
Et c'est ce qui explique. C'est la fin de ce Radio Foot International. Déjà, on avait encore plein de choses à se dire, mais ne vous inquiétez pas. Avec David Finzel et Laurent Salerno, on revient demain. Vous avez gagné. Merci à tous. Demain sur RFI.